On reçoit, comme je dis, les solitaires dans un petit restaurant de la rue Blanche où je vis entrer Pierre Blanchard, que trois ou quatre films muets venaient de rendre célèbre. Il me parut très excité, car avant même d'avoir refermé la porte, il se mit à me parler de loin. Et il me dit « J'arrive de Londres, je viens de voir une chose extraordinaire, un film parlant. Ça s'appelle Broadway Melody, on le joue au Palladium, il faut absolument que tu ailles voir ça. » C'était la grande nouvelle que j'attendais depuis si longtemps. Et dès le lendemain, je partis pour Londres. J'y restais 3 jours. Et j'allais voir 5 ou 6 fois la projection de Broadway Melody dans l'immense salle du Palladium où se passaient d'ailleurs des milliers de spectateurs. Évidemment, la technique de cette époque n'était pas encore ce qu'elle est devenue après 30 ans de recherche et de perfectionnement. La jeune première, qui s'appelait Bessie Love, avait par moments une voix d'un timbre charmant, mais dans d'autres scènes, quand elle pleurait par exemple, on aurait dit qu'elle gémissait au fond d'un tonneau, ou quand elle chantait, elle rappelait étrangement un mirliton. Mais pourtant, elle parlait et elle chantait, et ses sons, quoique étranges, semblaient bien sortir de ses lèvres.
Comme j'avais une entière confiance dans le génie des savants et l'ingéniosité des techniciens, je fus immédiatement convaincu, l'ère nouvelle venait de s'ouvrir. Je rentrai aussitôt à Paris, et sur le quai de la gare, je rencontrai M. de Marcillac, qui était à cette époque le rédacteur en chef d'un très puissant quotidien qui s'appelait Le Journal. M. de Marcillac me demanda d'écrire à propos de la 500e de Topaz, que nous avions fêté dans le courant de la semaine, un article. Je lui répondis qu'il me semblait bien délicat de parler de moi-même. Il m'était évidemment impossible de dire du bien de mon ouvrage, et je pensais qu'il serait peut-être dangereux d'en dire du mal. Je lui proposais donc autre chose, un article sur l'avènement du film parlant. Il accepta, et ma prose parut le surlendemain, c'est-à-dire le 17 mai 1930, il y a hélas 30 ans. Cet article n'insultait personne, mais il disait assez clairement que le cinéma muet était gravement menacé et que l'art dramatique avait désormais à sa disposition un moyen d'expression beaucoup plus puissant que le théâtre. Je fus réveillé d'assez bonne heure par le téléphone. Plusieurs de mes amis qui venaient de lire mon papier en buvant leur café du matin me firent savoir, et parfois sur un ton assez vif, qu'ils étaient stupéfaits, consternés et même indignés. Seul Steve Passer fut assez indulgent pour attribuer mes théories à un excès de libation nocturne. Je fus très étonné moi-même et j'allai dans la matinée à la Société des auteurs afin de dissiper tout malentendu et de préciser ma position. Il faut dire qu'à cette époque, les auteurs dramatiques détestaient le cinéma qui prenait peu à peu leur salle et leur public. Du point de vue artistique, ils n'estimaient guère. Ils lui vendaient des fois le droit de tirer des films de leurs ouvrages. Mais ce droit était considéré par eux comme une sorte de sous-produit d'exploitation. Il était vendu à forfait, souvent pour le monde entier et pour toujours. Et parfois même, l'auteur de l'œuvre originale ne daignait même pas assister à la projection du film. Les membres de la commission m'écoutèrent assez longuement. Je leur dis que la nouvelle découverte n'était nullement un perfectionnement du muet, mais un art très différent, qui allait permettre la victoire définitive de l'art dramatique sur le cinéma muet, que je croyais condamné à disparaître, et d'ailleurs je n'avais pas tort. J'ajoutais que si les auteurs comprenaient en temps utile l'importance de cette révolution, il nous serait facile de nous installer dans tous les studios du monde qui ne pourraient plus se passer de nous désormais. Plusieurs commissaires m'écoutaient d'un air glacé. D'autres paraissaient douloureusement surpris, d'autres indignés, et quelques-uns positivement écœurés. Ils m'appelèrent d'abord ingrat, puis traître, puis renégat, ce qui est un assez vilain mot, et Henri Bernstein, qui passait par là, refusa de me serrer la main. Puis un auteur célèbre me conseilla de verser immédiatement à la caisse des retraites tous les droits que j'avais perçus sur Topaz et sur Marius. Je fus grandement déçu d'avoir été repoussé par les miens, mais non pas découragé.